Orléans Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Près d'1,5 million de personnes se sont rassemblées à Istanbul dimanche dernier à l'occasion de l'arrivée de la marche pour la justice. Elles dénonçaient la dérive autoritaire du pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan, un président engagé dans une folle équipée personnelle, écrit Sébastien de Courtois dans son dernier livre « Lettres du Bosphore ». L'auteur, qui vit à Istanbul depuis plusieurs années, parle évidemment de cette ville, une cité plurielle avec ses lieux de rendez-vous européens et ses quartiers exclusivement musulmans, mais plus encore, il parle de la Turquie, un pays contrasté et multiculturel qui semble aujourd'hui comme coupé en deux par les choix politiques récents du parti au pouvoir depuis la tentative de coup d'état militaire de l'an dernier. Mais il semble bien qu'aux arrestations incessantes d'intellectuels et d'opposants supposés, l'on assiste à une réaction tardive certes, mais bien réelle, d'une opposition qui paraît enfin sortir de sa torpeur.
Orléans Hebdo sur RFI.
Bonjour Sébastien de Courtois.
Bonjour.
Écrivain, journaliste, spécialiste des chrétiens d'Orient et surtout de la Turquie, puisque vous vivez depuis plusieurs années à Istanbul. Et vous publiez chez Le Passeur Éditeur ses Lettres du Bosphore. Il s'agit de chroniques régulières, sorte de journal de la vie ordinaire que vous avez tenu ces dernières années. Alors, vos chroniques commencent le 6 novembre 2015. Pourquoi précisément à ce moment-là?
2015, parce que tout simplement, nous sommes dans les lendemains de la victoire d'Erdogan et de son parti politique, bien entendu, mais qui me semblait une victoire qui était basée sur un mensonge. Le mensonge étant celui-ci, c'est-à-dire qu'on crée soi-même un sentiment d'insécurité et on se présente comme celui qui peut résoudre cette insécurité. Alors qu'on a soi-même provoqué. Ça m'a semblé complètement injuste et je me suis dit, il faut le marquer, ça, il faut l'écrire. C'est ce que voulait faire Kadri Gürsel aussi, qui est ce journaliste dont je parle un petit peu dans le livre et qui est en prison maintenant. Alors j'ai essayé de le faire avec une certaine précision, mais en gardant quand même un regard littéraire, un regard d'amoureux, de passionné par la Turquie, ce que je reste bien entendu. Donc il y a de la politique, mais il y a aussi du cœur.
Alors vous constatez dans l'une de vos premières chroniques que le pays reste à l'heure d'hiver, contrairement au reste de la région. Est-ce un signe déjà que le pays se met à l'écart?
C'était un formidable symbole, ça. C'est-à-dire que la Turquie décide contre tout le monde de rester une heure en arrière par rapport à l'Europe occidentale. C'est exactement, si on fait un peu de psychanalyse des pays, si ça pouvait exister, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de ces hommes politiques qui réagissent et qui s'enferment même dans leur propre déni de réalité. Alors ça a longtemps été un déni de réalité sur la sécurité, c'est-à-dire qu'ils se sont souvent et longtemps sentis protégés des conséquences de leur interférence en Syrie. Ben non, manque de peau, il y a eu beaucoup d'attentats. Bon, il faut un moment se réveiller. Et là, je suis très inquiet parce que la Turquie s'enfonce dans un sentiment très anti-européen, très nationaliste, et je sais vraiment pas où ça peut mener.
D'ailleurs, vous dites à propos, et vous écrivez à propos du président Erdogan, il pratique son Machiavel sans l'avoir lu. Alors son idéologie religieuse affichée ne serait-elle qu'un moyen finalement de sa propre promotion?
Oui, je le crois profondément, ce sont des affabulateurs en fait, ils ne croient en rien. Moi je connais des vrais mystiques musulmans, j'écris un petit livre sur le soufisme en ce moment, qui est une pratique, une religion, une foi qui m'intéresse énormément. Les soufis en Turquie n'ont rien à voir avec cet islam politique qui est manipulé, qui est trafiqué, ne serait-ce que la corruption. Je me souviendrai toujours pendant les semaines de Gezi, vous vous souvenez, ce parc de Gezi en 2014
à Istanbul,
au cœur d'Istanbul, il y avait un mouvement qui s'appelait les musulmans anticapitalistes qui venaient prier tous les soir sur la place de Taksim, et c'était les kémalistes laïcards et complètement athées qui faisaient faire le silence pour laisser les musulmans prier. Donc il faut savoir qu'en Turquie, en ce moment, ça explique aussi la défaite d'Erdogan, la défaite symbolique du moins au référendum du mois d'avril dernier pour la réforme constitutionnelle, c'est que toute une partie des musulmans pieux n'ont plus voté pour lui. Parce que justement, il trahit l'idéal même de cette religion.
Parallèlement, est-ce que vous diriez que la Turquie abandonne petit à petit sa laïcité?
Oui, c'est plus qu'elle l'abandonne, c'est qu'elle bat en brèche cette petite faille qui a commencé doucement. Il faut regarder l'éducation, le système éducatif. Maintenant, il y a des passerelles autorisées entre le primaire, le secondaire, dans des écoles religieuses, dans des imams types, et ensuite dans le système universitaire, ce qui était formellement interdit. Les petites filles, par exemple, peuvent faire quelques années en école religieuse et ne plus être scolarisés ensuite. Ça, c'était des choses qui, c'était des barrages, si vous voulez, à cette régression qui était impossible avant. Et ceux qui souffrent, ce sont les classes populaires, qui justement ont besoin de cette éducation, ont besoin de baigner dans ce progressisme, et la jeunesse turque, à mon avis, est très très sensible à ça. Donc ils n'ont pas encore compris qu'ils ont des jeunes très motivés en face d'eux.
Alors, Sébastien de Courtois, vous habitez à Istanbul. Vous écrivez dans votre livre que la partie européenne de la ville n'a jamais été pieuse, contrairement à la ville musulmane qui est située de l'autre côté du Bosphore, qui s'appelle Sultanahmet, je crois. Et il y avait des vignes également sur les hauteurs de la partie stambouliote européenne. Est-ce qu'il y a encore des maisons de vin, comme on les appelle, des meyanes?
Mehane. Voilà, mais c'est le vin en persan, figurez-vous. J'ai découvert ça là-bas. Alors, les vignes n'existent plus, hein. Néanmoins, ils restent dans ce quartier de Galatasaray, la tour de Galata, la place de Taksim, un goût un peu d'ancien régime, oserais-je dire, où il y a une vie un peu comme on faisait à l'ancienne, l'esprit des communautés, des minorités, juifs, arméniens, grecs, et qui crée ce style de vie, là, pour le coup, proprement stambouliote. Ça, c'est ce qu'on appelle la partie européenne. Mais ce dont vous parliez tout à l'heure, en fait, Sultanahmet, donc la ville musulmane au sens historique, n'est pas de l'autre côté du Bosphore, elle est de l'autre côté de la Corne d'Or. Donc nous sommes toujours en Europe, mais légèrement au sud, enfin il y a un pont maintenant, hein, c'est 20 minutes de marche, et là c'est ce qu'on appelle la péninsule historique, où on trouve Sainte-Sophie dans toute sa majesté, et les mosquées, je pense à la Souleymaniye, à la mosquée de Fatih, et la mosquée de Yavuz Sultan Selim, qui sont des chefs-d'œuvre de l'architecture ottomane. Et à l'époque de Pierre Loti, c'est dans Pierre Loti que j'ai découvert ça, un auteur que j'aime énormément, les non-musulmans n'avaient pas le droit de rester dormir la nuit à Sultanahmet, justement. Et Pierre Loti, bien entendu, étant un magicien des lieux, avait réussi plusieurs fois à se laisser enfermer dans la vieille ville.
Pierre Loti qui aimait aller boire dans les maisons de vin de Péra, me semble-t-il.
Oui, et qui est tombé aussi plusieurs fois amoureux à Istanbul.
Alors, le détroit du Bosphore sépare les deux rives européennes et asiatiques de la ville. Est-ce un lieu qui marque une différence essentielle entre les deux parties, entre les deux rives, ou est-ce un lieu de passage commun?
Alors, c'est un lieu de passage maintenant. Il y a des bateaux qui passent toutes les 5-10 minutes, c'est très facile. Mais dans la manière des stambouliotes de s'exprimer, on habite en Asie et on va travailler en Europe. Ou on habite en Europe et on va dîner en Asie, par exemple. Alors que c'est 10 minutes de bateau pour changer de continent, en fait. Donc ça reste quand même très prégnant dans l'atmosphère stambouliote. Les gens n'aiment pas, au fond, habiter en Asie. Bon, je sais pas pourquoi. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits très cossus sur la côte, face aux îles. Donc traditionnellement, l'Europe est plutôt le lieu du travail. Et l'Asie est plutôt le lieu de vie, des espèces de cités dortoirs. Mais même ça, c'est en train de changer très très vite, parce qu'on voit la côte asiatique qui se développe à vitesse grand V vers le golfe d'Izmit sur des dizaines de kilomètres. N'oublions pas qu'Istanbul est estimé à 17 millions d'habitants.
Alors, vous décrivez dans votre livre une Turquie qui est contrastée. On y organise par exemple une exposition sur le nu dans la peinture turque, mais des islamistes parallèlement s'attaquent au raki, la boisson turque par excellence, et une sorte de yaourt, elle, élevée au rang de boisson nationale. Tout est son contraire, pourrait-on dire.
C'est ça la Turquie. C'est ça qui fait ce pays de contraste absolument fascinant, c'est qu'effectivement au musée de Péra, il y a eu une exposition sur le nu dans la peinture turque. Alors, de manière très prude, les plus beaux nus n'ont pas été utilisés pour le poster sur la grande façade, donc il y avait un portrait beaucoup plus vêtu. N'oublions pas une chose, l'origine du monde de Courbet a été commandé par...
Le tableau,
a été commandé par un diplomate turc. Voilà, il y a des petites histoires comme ça qui montrent que plusieurs fois, il y a eu des échanges culturels, artistiques, très importants entre la France notamment et Istanbul. Toute l'élite de la fin de l'Empire ottoman, qu'elle soit grecque, arménienne ou turque ottomane, était francophone. Les gens, les artistes, venaient se former à l'école des beaux-arts chez nous. Et par exemple, en Turquie, il y a cette autre anecdote qu'on m'a racontée, c'est que les nus, en fait, n'étaient pas des vrais nus. C'était des sculptures antiques, des véritables sculptures, qui ramenaient d'Aphrodisias ou d'Éphèse ou de ces garde-meubles à ciel ouvert de cette antiquité pour que les jeunes étudiants apprennent leur travail.
Il n'y avait pas de femmes qui posaient en quelque sorte.
Pas tout de suite, mais il y en a eu par la suite.
Alors, par ailleurs, la Turquie, vous le décrivez, est un pays multiculturel. On découvre, grâce à vous, qu'il y a des communautés syriaques en territoire kurde dans le sud-est du pays et qui sont encore vivaces.
Alors c'est un endroit de Turquie que j'aime énormément, qui est au sud-est du pays, on n'est pas loin de la Syrie, on n'est pas loin de l'Irak. Un endroit que j'ai découvert un peu par hasard en fait, parce que mon histoire avec la Turquie n'était pas vraiment scellée avant une dizaine ou quinzaine d'années. Je voyageais en Turquie avec un ami complètement par hasard, à la fin des années 90, donc ça fait déjà quand même pas mal de temps, et nous sommes tombés sur ces monastères, complètement par hasard, une mauvaise bifurcation, et j'étais fasciné par cet endroit. Ce sont des monastères, 4 ou 5, il reste une vingtaine de moines à peu près, quelques milliers de chrétiens qui parlent l'araméen et qui chantent l'araméen. Donc me retrouver dans cette ambiance monastique, au bout du monde, aux confins de toute espérance, j'ai été fasciné. J'y suis revenu plusieurs fois et j'ai écrit des livres, des travaux universitaires sur cette thématique.
C'est une terre donc multiculturelle, multireligieuse également. Est-ce qu'il y a des gens qui s'installent dans cette région ou qui en partent aujourd'hui? Comment ça se passe?
Alors c'est une région qui a beaucoup souffert parce que beaucoup de chrétiens ont dû partir dans les années 70 et 80 au début des combats et de la problématique turque et kurde avec le PKK. Et les chrétiens, comme actuellement dans le Proche-Orient, dans beaucoup de pays, se retrouvent au milieu. C'est la petite minorité sur laquelle il est facile de taper. Et donc ils sont partis. On en a en France, on en a en Belgique, en Suède, en Allemagne. Et dans les années 2005, 2006, 2007, il y a eu une possibilité de retour pour eux. Et là, c'était très beau à voir parce que j'ai vu des villages entiers ressuscités, renaître de, pas non pas de leurs cendres, mais de leur poussière et de leur effondrement. Des possibilités de société, d'économie et puis un savoir-faire surtout. Il faut dire que les locaux, les Kurdes, souvent musulmans, étaient parfois heureux de les revoir. Ça a causé bien sûr aussi des problèmes de voisinage.
Et puis certains Syriaques accèdent à des fonctions plus officielles. Enfin, ils sont un peu nombreux, on dira, mais il y en a, et notamment une jeune femme qui est maire d'une des villes de la région.
J'ai été très séduite par cette jeune femme de 25 ans à l'époque, Februni Akyol, qui s'est fait élire maire de Mardin. Mardin est une très grande ville, et le parti pour lequel, un parti kurde pour lequel elle a été, enfin kurde qui accepte beaucoup de monde aussi, hein, avec lequel elle a été élue, avait imposé pour chaque mairie un homme et une femme, c'est-à-dire les gens votaient pour deux personnes véritablement à la fois. Et elle était femme pour tout, elle a été choisie pour tout un tas de raisons. Elle était étudiante en second cycle universitaire et elle était chrétienne. Donc c'était véritablement là, ils ont voulu mettre en avant cette diversité pour montrer au fond que nous sommes en Haute Mésopotamie, hein. C'est même plus l'Anatolie, c'est déjà la Haute Mésopotamie. Et là, on est véritablement dans l'argile des civilisations, je pense.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Alors, vous pointez une autre date, une autre période dans vos chroniques, c'est juillet 2016, précisément le 21 juillet, vous écrivez « Temps pourri sur la Turquie, météo couverte », et ça ressemble à une allusion à la tentative de coup d'État qui vient d'avoir lieu.
Et surtout de la répression qui en a été la suite logique, voilà. Alors, on va peut-être pas rentrer en détail sur le coup d'État, c'est très compliqué à comprendre, et je crois qu'il y a de moins en moins de gens qui s'y retrouvent. Simplement, moi, je n'accepte pas, comme beaucoup de monde, la doctrine officielle, qui est tout simplement de la propagande de bas étage. Malheureusement, c'est beaucoup plus complexe. Il faut voir des frustrations dans l'armée, il faut voir des conséquences aussi de l'intervention turque en Syrie. Enfin bon, il y a beaucoup d'éléments qui se superposent et qui s'additionnent pour tenter de comprendre ce coup d'État. Néanmoins, ce que je voudrais dire, c'est l'intelligence magistrale politique du président Erdogan, qui a dû certainement laisser faire à un moment donné et qui a réussi à se rétablir de manière magistrale, et là chapeau l'artiste pour vraiment s'installer encore un peu plus dans son pouvoir avec son entourage. Et malheureusement, ça coûte très très cher à la Turquie. Pour moi, il s'agit d'un suicide politique parce que la Turquie est un pays où il y a une classe moyenne éduquée, il y a des gens qui sont très attachés à la démocratie, à cet idéal de liberté et qui veulent vivre tout simplement dans un pays normal. Je terminerai là-dessus. Mon petit restaurant qui est en bas de chez moi, ma Lokanta, qui sont des Kara Denizli, donc des gens de la mer Noire, m'a dit « Mais j'aimerais vivre dans un pays où ce sont les gens mauvais qui vont en prison et pas le contraire. » je crois qu'on en est là. Les gens ont juste besoin de respirer un petit peu.
Et ce que vous décrivez dans votre livre, ce sont quelques jours et quelques semaines après la tentative de coup d'État. C'est dans les rues d'Istanbul, des grandes manifestations avec des références très particulières. Référence au loup gris, par exemple, ce qui est l'extrême droite nationaliste. Référence aussi à la rabia, le signe de ralliement des frères musulmans. C'est un cocktail étonnant, non ?
Ah ben on a eu peur, hein. Je veux dire ceux qui ont un peu la tête sur les épaules, on s'est pas senti très à l'aise. Hein. L'alliance de l'hypernationalisme avec l'hyper-islamisme politique. Encore une fois, je fais vraiment la différence, surtout en Turquie qui est une terre de soufisme, une terre de mixité culturelle, une terre de mélange et d'interaction réciproque avec l'autre, ce qu'on appelle l'autre. Je pense à Mevlana, je pense à Yunus Emre, je pense à Hacı Bektaş, qui sont ces saints du XIIIe siècle qui ont inondé la pensée soufie turque jusqu'à notre époque. Ce n'est pas ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est la manipulation de l'islam politique. Mais quand il y a après le coup d'État, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a les nationalistes d'un côté, donc ce qu'on appelle les loups gris, et de l'islamisme politique, ce qu'on appelle l'Arabia, l'AKP ayant soutenu, souvenons-nous en Égypte, le président Morsi, donc les frères musulmans, ils les ont conseillés politiquement, et donc ont failli rompre leurs relations diplomatiques avec l'Égypte après le coup d'État du maréchal Sisi. Donc ce signe de l'Arabia qui a été adopté maintenant par le gouvernement turc et par le président Erdogan lui-même, est en fait un soutien aux frères musulmans d'Égypte.
Dans les défilés également, on a beaucoup entendu le mot « fato ». Fato, ça fait référence à Fatullah Gulen, qui est l'imam qui a influencé une partie de la société ces 20 dernières années, qui a essaimé aussi dans toute la région, y compris turcophone. Pourquoi précisément pointer du doigt cet imam ?
Alors c'est un acronyme qui est fêteux en fait, c'est-à-dire Fethullah Gulen, organisation terroriste. Bon, là c'est véritablement de l'orfèvrerie pour ceux qui connaissent la politique intérieure turque. Donc je voudrais pas ennuyer nos auditeurs avec ça, mais grosso modo, c'est une organisation à base religieuse, mais à base de services sociaux aussi, qui existe depuis très longtemps et qui a été toléré par à peu près tous les pouvoirs. Ils ont pris le pouvoir ensemble avec la KP, en fait. Voilà. Donc il y a eu à un moment une guerre des chefs, une guerre des clans, une guerre des traditions religieuses. Alors là, il faudrait remonter à la fin de l'Empire ottoman, des visions plus ou moins conservatrices de l'islam. Comment, en fait, on installe un gouvernement musulman ? Voilà. Est-ce qu'on fait de l'entrisme politique ou est-ce qu'on fait le jeu des élections. Bon, c'était deux stratégies différentes. Les deux grands chefs se sont bagarrés et depuis 2 ans, depuis la révélation en fait d'une affaire de corruption en décembre 2015, c'est la guerre ouverte entre les deux organisations.
Une grande mosquée est en construction, place Taksim à Istanbul. Est-ce la dernière provocation d'un pouvoir qui veut réaliser son rêve, c'est-à-dire refermer la parenthèse d'une Turquie laïque et républicaine au profit d'un État islamisé ?
Moi, je suis très inquiet de cette surenchère, comme beaucoup d'autres. Hein, je pense à tous mes amis journalistes turcs qui essayent de se battre les intellectuels sur ce point de vue. C'est qu'évidemment, s'il faut des mosquées, bien entendu, personne n'a rien à dire. C'est leur droit, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais sur la place de Taksim, c'est véritablement un endroit très politique. C'est la laïcité turque. C'est là où, dans les années 70, en 77, je crois, il y a eu une vingtaine de morts tués par l'armée pour lieu de lutte sociale, lieu de rassemblement des syndicats. C'est le lieu du 1er mai, c'est véritablement le lieu de la laïcité, le lieu de la République turque. Voilà. Et ce qui embête les islamistes, c'est que sur cette grande place de Taksim, il y a un monument qui s'appelle l'AKEME, le centre culturel Atatürk, qu'ils ont fermé depuis 5 ans et qu'ils vont jamais réouvrir, un opéra. Il n'y a plus d'opéra à Istanbul, capitale de 17 millions d'habitants. La culture n'est pas pour nous. Donc on ferme l'opéra. Et le deuxième grand monument sur la même place, c'est une église, manque de peau, c'est l'église de la Sainte Trinité grecque. Et ça, pour ces gens-là, c'était inadmissible.
Merci Sébastien de Courtois, écrivain, journaliste. Je renvoie à votre livre « Lettres du Bosphore » que vous publiez chez Le Passeur Éditeur.
Merci.
Orient Hebdo, François Porcheron, Éric Bataillon. Vous pouvez réécouter et podcaster l'émission sur le site de la radio www.rfi.fr et la retrouver sur notre page Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.